leur chant. Bonjour, hors champ, aujourd'hui avec Renata Adler. Nice to meet you, Madame Adler.
Nice to meet you, Madame Adler.
Pouvez-vous nous dire quels sont vos premiers souvenirs et est-ce que vous avez gardé la mémoire de votre exil des États-Unis quand vous êtes arrivée aux États-Unis d'Italie?
J'étais enfant. My mother and father had left.
Alors, mon père et ma mère avaient quitté l'Allemagne très tôt. Ils ont eu beaucoup de chance, ou alors ils l'ont senti. Mon frère était né en Allemagne, mon père et ma mère sont allés en France, puis en Suisse, et finalement ils se sont installés en Italie, qu'ils aimaient beaucoup. Et mes frères sont allés à l'école italienne, et puis soudain je suis née. Je ne suis pas vraiment l'article authentique. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, les visas ont été instaurés. Et donc, il s'est agi de savoir quels étaient les visas qui allaient arriver d'abord, si c'était pour les États-Unis ou si c'était pour l'Australie. Et finalement, ce sont les visas américains qui sont arrivés les premiers. Et donc, mes parents sont partis aux États-Unis. Et moi, j'étais toujours dans mon petit berceau. Mais à la maison, on parlait allemand. Ce qui fait que je n'ai jamais eu, en fait, l'expérience, en tout cas consciemment, d'être une réfugiée.
Quand avez-vous su que vous étiez juive?
It's very interesting, very late.
Alors, c'est très intéressant, très tard en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais savoir avant, mais d'une certaine manière, je ne savais pas. Et c'est étrange pour moi parce que mes parents, une des choses sur lesquelles ils insistaient, c'est que nous parlions allemand à la maison, ce qui était fou d'ailleurs, puisque c'était pendant la guerre. Donc du coup, mes pauvres frères, quand ils allaient à l'école, se faisaient toujours battre. Et la raison, c'était parce que mon père avait en tête qu'il souhaitait que nous parlions anglais comme des Américains, et il croyait que ce ne serait pas le cas si nous parlions anglais à la maison. Évidemment, entre enfants, on parlait anglais. Mais c'est devenu une idée complètement dingue, en fait, dans ce système américain, qui était que, d'une certaine manière, vous êtes réfugié, vous balancez vos enfants à l'école, et d'une certaine manière, ils s'éloignent de leurs parents, et puis cette langue de l'école devient leur langue. Mais ce qui a découlé en fait de cette folie, c'était cette question sur ma judaïté que vous venez de me poser. Et d'une certaine manière, je n'avais pas vraiment compris. Mes parents étaient très fermes là-dessus parce que mon père, comme toute sa génération, je crois, était complètement assimilé, comme mes grands-parents d'ailleurs. Le meilleur ami de mon père est venu aux États-Unis en même temps que nous, et puis ils sont retournés après la guerre en Allemagne, et ils n'étaient pas conscients davantage de cette judaïté vraiment. Et donc mon père se sentait totalement allemand, et il était choqué que des gens aient une autre notion. Nous connaissions des gens qui avaient changé leur nom, leur religion, et c'était quelque chose de très étrange. Et du coup, mon père, en parlant comme ça, était encore plus allemand. Donc, d'une certaine manière, c'était une information que je n'avais pas saisie jusqu'à très tard, le fait d'être juive.
Alors, vous êtes devenue l'une des plus grandes journalistes américaines, celle qu'on admire beaucoup outre-Atlantique. Vous êtes devenue aussi écrivain. On reviendra sur votre parcours, Renata Adler. Mais auparavant, il y a eu la linguistique. Nous allons écouter la voix de Roman Jakobson, c'était au micro de René Georgin. Il va évoquer les stades du développement de la langue humaine. archives du 8 octobre 1977.
Il y a deux stades dans le développement de la langue humaine. On peut représenter les événements sous deux aspects. L'homme crée la langue ou bien la langue crée l'homme. Ça, c'est un moment du développement des êtres vivants. Un moment très important. J'ai dit que du point de vue chronologique, c'est la seconde révolution substantielle. La première révolution, c'est la sexualité. Ensuite vient l'intercourse, comme on dit en anglais, l'intercourse verbal. C'est sûr qu'il a employé ce mot anglais pour le langage, qui demande déjà une société. Et on peut dire, comme l'a fait d'ailleurs Benveniste, c'est le langage qui crée la société, c'est la société qui crée le langage. Il y a les deux choses. Mais ça, c'est le langage parlant. Et puis après, l'homme parlant, le sujet parlant, vient le sujet lisant et écrivant. C'est un nouveau stade, qui n'exclut pas le fait de parler, mais il y a déjà une dualité.
Qu'a représenté pour vous Roman Jakobson, Renata Adler?
Oh, that was a marvelous man, a brilliant man.
Absolument merveilleux, brillant. Et vous savez, je l'ai rencontré complètement par hasard, en fait. J'étais à Harvard à l'époque, donc j'avais été diplômée de premier niveau et il y avait différents professeurs d'université, mais les professeurs de l'université d'Harvard avaient l'autorisation d'enseigner n'importe quelle matière dans n'importe quel département. Et il y avait donc un critique que j'admirais énormément et les gens m'avaient dit non, on ne va pas à son cours, il n'est pas bien du tout. Et je suis allée voir un enseignant et c'était comme ça que ça se passait. Hein. Est-ce que vous m'enseigneriez la métaphore? Et j'ai dit mais la métaphore en philosophie. Et il m'a dit, il faut que tu lises en fait ce petit ouvrage de linguistique. Il y a une page en particulier dont tu dois me dire que tu la comprends. Et c'était un très court ouvrage et donc c'était la structure syntaxique que je devais comprendre. J'ai lu cette page et je l'ai comprise. Ça m'a appris des tas de choses. Et donc cet homme m'a dit d'accord, je vais t'enseigner ça. Et en fait tout le cours était sur cette page et j'ai utilisé mon esprit, puis j'ai utilisé en fait tout ce que j'avais appris là, y compris dans un roman. J'ai utilisé ça de manière très sérieuse et j'ai également utilisé ceci, on va dire, le paradis de l'étudiante. Et c'était donc un peu comme un paradis. D'un côté, c'était la chose la plus comique et la chose la plus incroyable. Et donc, j'ai commencé à suivre Jakobson où qu'il aille, et donc il m'a dit pourquoi tu viens pas au Massachusetts Technical Institute, MIT. Est-ce que vous l'avez lu, Jakobson? Parce que il y avait trois personnes. Il y avait Jakobson, il y avait Lévi-Strauss en France, et il y avait Lacan, le psychiatre. Et ils se comprenaient à peu près sur tout. Et lorsque je suis venue en France étudier pour une année, Jakobson m'a envoyé à Lévi-Strauss. Et je suis allée donc à ses cours. Ça m'a pris un petit peu de temps pour arriver à comprendre le français, mais c'était formidable à partir du moment où j'ai réussi à comprendre. Mais tous les trois, c'était un trio assez étrange. On a plus personne comme ça maintenant. Et Richards était plus vieux, en fait, que tous les autres. Mais vous voyez, ce que Richard avait inventé, en plus de la critique, il avait partiellement inventé ça, c'était enseigner les langues aussi rapidement qu'il était possible pendant une guerre. Et c'était un espèce de lavage de cerveau, mais c'était un apprentissage des langues extrêmement rapide. Et je ne sais pas pour les jeunes aujourd'hui s'il y a des enseignants qui suivent cette méthode, mais il m'a semblé donc que les profs qui étaient les plus importants pour leurs étudiants étudiants. Hein. Par exemple, Chomsky était au MIT en même temps que Jacobson, hein. Mais c'était seulement en fait une figure politique. Hein. Mais les trois que je mentionnais avant étaient vraiment des personnes brillantes et ils ont brillamment contribué. Et voilà, je ne peux pas imaginer personne d'autre comme professeur.
Nous allons écouter la voix de Claude Lévi-Strauss qui va définir ce qu'est le structuralisme.
Eh bien, le structuralisme, sans jamais espérer naturellement mettre les sciences humaines sur le même pied que les sciences physiques et les sciences naturelles, parce que ça nous en sommes tellement loin que ça n'est même pas la peine d'en parler, eh bien, essaye à tout le moins de s'inspirer de ce double exemple. D'abord, en allant chercher ces objets d'observation très loin, et ça, c'est le sens de la recherche ethnologique. Il faut, pour que l'objet nous paraisse suffisamment simple, le choisir assez détaché de nous pour que nous n'y investissions pas toutes nos préoccupations, tous nos intérêts et tous nos propres mythes, n'est-ce pas ?
Il faut être disponible.
Bon, il faut être disponible. Et ensuite, de choisir dans ces phénomènes que nous étudions certains niveaux où il est possible de simplifier.
Alors, Renata Adler, on a compris, vous êtes née aux États-Unis, vos parents ont fui le nazisme. Vous êtes née en Italie,
Italie
pardon,
oui,
et vous êtes arrivée très très jeune, je crois,
oui,
à l'âge de 3 ans à peu près. Ou
un an,
encore
oui,
plus petite,
oui.
Aux États-Unis. Parce que vos parents ont fui le nazisme. Très vite, j'imagine que vous étiez une très bonne élève à l'école et puis vous avez fait les plus grandes universités. On a entendu la voix de Claude Lévi-Strauss. Vous avez parlé de Jacobson, Lévi-Strauss, Lacan. Vous êtes venu faire des études à Paris. C'est pour ça que vous comprenez très bien le français. Mais quand on lit vos bouquins ou vos articles, on ne voit pas de traces du structuralisme. Est-ce que ça vous a imprégné comme méthode de pensée ?
J'ai jamais pensé par rapport à mon propre travail, en fait. J'ai utilisé ce qu'ils disaient sur le langage. Il y avait quelque chose d'absolument fascinant que faisait Jacobson avec la structure du langage, que Lévi-Strauss faisait avec la structure des familles tribales, structurellement. Et c'était quelque chose qui était absolument brillant et qui était totalement fascinant. Ça influence ma manière de travailler, mais pas la structure, le structuralisme du langage. Je ne sais pas bien ce que je veux dire par là.
Si, on peut dire, enfin, votre situation intellectuelle en France est très étrange parce que vous avez publié un livre qui est pour nous très important, qui a été republié d'ailleurs des années plus tard. Ce livre a été traduit sous le titre « Hors bord » et publié aux éditions de l'Olivier. Mais vous avez publié beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais quand on relit « Hors bord », on voit bien que la langue n'est pas forcément un instrument uniquement de communication pour vous.
C'est intéressant, je pense que vous avez raison, oui. Probablement, hein, la langue a pour moi quelque chose de musical. Hein. Je travaille dur, je travaille d'une manière que je n'admirerais en aucun cas, hein, sur les phrases, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe et mot par mot, comme le font les poètes en fait. Hein. Mais c'est une méthode tout à fait étrange de travail et d'une certaine manière, ça ne fonctionne pas pour le type de livre que j'aimerais lire. Et malgré tout, c'est la manière dont j'écris. Et il y a une chose très étrange qui m'est arrivée là-bas. Il m'a semblé remarquer dans le modernisme, peu importe comment on le définit, mais si on parle du modernisme en prose et en littérature, ce modernisme n'a pas accès aux mêmes émotions que la littérature vous donnait toujours. Hein, vous faire pleurer, par exemple, hein, et qu'il y ait des bons et des méchants. C'est plus comme ça maintenant. Il y a d'autres effets que le modernisme atteint. La colère, par exemple, mais pas cette émotion des pleurs. Et je dirais donc que cet autre roman qui est en cours de traduction, qui s'appelle Pitch Dark, et qui est en cours de traduction toujours à l'Olivier, hein, j'espère que lui, il pourra communiquer des émotions au lieu de... ces idées de collaboration, d'opinion. D'une certaine manière, il y avait une véritable déception dans la réalisation de ce que je ne pouvais pas faire. Et évidemment, j'étais quand même malgré tout contente de ce que j'arrivais à faire. Mais si vous ne pouvez pas écrire un roman où les lecteurs voient se dérouler les choses qu'il a envie de voir se dérouler, c'est très très frustrant. D'un autre côté, si on prend Proust, ce que vous voulez principalement, ce n'est pas une succession de faits. Il y a d'autres effets, d'autres buts, et c'est unique. Personne d'autre n'a pu faire ça. Personne n'a pu faire ce que Kafka a fait, ce que Joyce a fait. Donc, d'une certaine manière, on va dire qu'ils étaient le point ultime de chacune des lignes de travail qu'ils avaient choisies.
Flaubert.
Alors Flaubert pouvait faire les deux, je crois. Il pouvait à la fois avoir une prose brillante et en même temps vous intéresser à l'histoire. Mais je crois que ce qui est amusant, et ça se passe dans tous les arts, c'est qu'il n'y a pas de signe dans les arts de la scène que les gens sont moins bons qu'ils ne l'ont jamais été. C'est-à-dire qu'un violoniste peut toujours jouer Schubert comme un athlète peut courir de plus en plus vite. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une amélioration dans la sculpture, dans la peinture, dans l'écriture. Je crois qu'il y a certaines portes qui se sont fermées sur cette discipline-là par rapport au modernisme. Alors, peut-être c'est pas ce que je devrais dire, mais dans certains sens, la production de l'art, que ce soit un film ou un livre, c'est un objet. Et il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il y a cette question de l'auteur en cinéma, c'est-à-dire que le lecteur a commencé à s'identifier à l'écrivain. Et on ne veut pas que ça se passe comme ça, en fait. On ne veut pas que le lecteur s'identifie avec l'écrivain, mais avec le personnage. Et c'est peut-être effectivement ce qui s'est passé. Voilà, on n'a pas ça, en fait, avec la peinture ou avec la sculpture, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui vous intéresse vraiment, c'est ce qu'a fait l'artiste. Et vraiment, ce qu'on veut, à mon avis, c'est que le public oublie l'artiste.
Dans votre livre Hors bord, Renata Adler, par moment, il y a des fragments d'autobiographie, mais pas tout le temps. Tout est inventé dans ce que vous écrivez. Non.
Non.
Mais tout n'est pas votre histoire.
Non, that's right. But another funny thing happened.
Mais une autre chose amusante s'est produite, bizarre plutôt. J'ai découvert que qu'est-ce qui se passerait si chaque mot était vrai? Parce que quelquefois l'histoire est tellement absurde que si vous racontez comment elle s'est vraiment produite, on a l'impression que vous êtes allé trop loin dans la parodie ou dans la satire. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est vraiment ça qui s'est passé? Donc, à ma grande surprise, beaucoup de ce qu'il y a dans Hors bord est vrai. Je l'ai raconté de manière différente quelquefois, mais ça ne donne pas accès à des sentiments.
Ben, je vais lire un très court extrait de Hors bord. Hors bord, qui est une série de nouvelles au sens américain du terme. Ce sont des histoires qui ont, elles aussi, des rapports entre elles et au lecteur de le découvrir. Voici un court extrait de Hors bord. Un jour, le père de ma colocataire m'a demandé si j'avais été dans le même internat que sa fille. J'ai répondu que non. Il y a eu un silence. Il m'a demandé depuis combien de temps je la connaissais. Un an, ai-je répondu. Nouveau silence. Il a fait une dernière tentative. Est-ce que vous connaissez Edie Warburg? Mais ça s'est bien terminé. Une autre demoiselle d'honneur, originaire de l'Alabama, avait amené son petit ami argentin de l'Université catholique de Washington. Il était très riche, avec plus de bonnes manières que n'importe quel anglo-saxon que j'ai jamais rencontré. Mais il ne s'était jamais trop préoccupé de se couper les cheveux. Après la baignade, la mère de la mariée m'a demandé sur le ton de la confidence si je pensais qu'elle devait faire vidanger la piscine. Point. On va à la ligne. Ben, c'est qu'on peut pas toujours gagner, déclara le vieux barman. En fait, c'est même jamais qu'on gagne. Point, on va à la ligne. Lydie était une jardinière exubérante, spectaculaire même. Elle passait des heures avec son chapeau de paille et ses gants, penchée sur la terre. Si quelqu'un remontait sa rue quand elle travaillait, elle brandissait toujours une laitue ou une botte de radis en affichant un air de détermination courageuse, comme si elle les avait elle-même abattus. Voilà un très court exemple, mais qui en dit long sur votre style, Renata Adler. En apparence, c'est comique. En apparence, c'est absurde. En apparence, rien n'est relié à rien. Et en même temps, vous tissez une trame de l'Amérique des années 70.
That's very helpful to me because, for example, there, the first two anecdotes.
Parce que c'est effectivement les deux premières anecdotes que vous venez de lire sont vraies. Ça s'est exactement passé comme ça, y compris dans la conversation. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est la question juive par excellence. Il essayait d'être poli. Hein. Il ne savait pas quoi demander. Et la question de l'Argentin, c'était vrai. Et le reste, d'où c'est venu, je ne sais pas. Mais vous voyez, en fait, le fait de combiner les choses, cette ligne de commentaire m'appartient complètement, mais ce n'est pas un commentaire que je ferai dans la vie, en fait. C'est juste un commentaire que je fais comme écrivain. J'espère que dans mon prochain livre, ça sera plus clair. Et je crois que c'est... plus clair, hein, ce qui serait un bon résultat, ce qui est triste. J'ai bien peur de ne pas pouvoir faire mieux.
Alors Renata Adler, vous êtes aussi une très grande journaliste. Vous avez travaillé dans les journaux les plus prestigieux, New Yorker, New York Times. On reviendra sur toute cette partie de votre itinéraire. Nous allons écouter la voix de Truman Capote à propos de son roman « Sang froid ». C'était le 29 juillet 1966.
My book is not a work of the imagination. It's a journalistic reportage in the form of a novel.
Vous l'avez entendu, Truman Capote vient nous dire que son livre n'est pas sorti de l'imagination. C'est tout à fait un reportage journalistique dans la forme d'un roman. Mais vous essayez dans votre livre d'être extrêmement impersonnel, et il semble que vous réussissiez tout à fait. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de penser que vous avez certaines sympathies pour les assassins.
Well, there's a very good reason for that. Kindly remember that I never knew the family. I had to reconstruct.
Eh bien, il y a une raison tout à fait naturelle pour ça, c'est que je n'ai jamais connu personnellement la famille. Elle était morte. J'ai dû reconstruire la personnalité de cette famille et leurs actes d'après seulement ce que les autres personnes m'ont dit. Tandis que j'ai connu les deux assassins intimement pendant 5 années. Donc, naturellement, je suis bien plus en rapport avec eux, car je connais deux. Chaque chose qu'il est possible pour un être humain de connaître sur un autre être humain.
Est-ce que vous vous revendiquez de cette filiation de Truman Capote, Renata Adler, dans l'exercice de votre métier, et comment vous définiriez le journalisme aujourd'hui ?
Alors, c'est amusant que vous me posiez cette question-là, parce que Truman Capote, son travail ne m'intéressait pas tant que ça, et quand je suis arrivée au New Yorker, la série donc de Sang froid commençait à paraître, hein, son roman paraissait en série, et je me suis dit, mais c'est tout ce à quoi je ne crois pas, suis-je allé dire au rédacteur en chef. Chef, hein, il m'a pas jeté dehors. J'ai donc commencé à me disputer. J'ai toujours eu des problèmes parce que je n'étais pas vraiment dans un contraire, mais c'était pas ce que pensaient mes collègues ou ce qu'ils écrivaient. Hein. J'étais plutôt à l'opposé de tout ça. Et plusieurs fois, il y avait des choses qui n'étaient pas vraies hein, dans cette histoire de Truman Capote. J'ai jamais cru. Hein, et puis après, effectivement, on a bien su des années plus tard qu'il avait inventé beaucoup de choses, mais c'était pas lui le pire, je crois. Loin du pire. Mais c'est devenu, d'une certaine manière, une habitude dans le journalisme américain. Vous savez, pendant des années, en fait, hein, les gens ne signaient pas leurs articles aux États-Unis. Hein. C'était donc un très grand honneur d'avoir votre article publié en première page d'un journal. C'était suffisant. Et puis ensuite, les noms ont commencé à être importants. Et puis tout d'un coup, on a fini par avoir des journalistes qui étaient des stars de cinéma. Hein. Et les gens disaient, voilà, je l'ai lu dans le New York Times et c'était suffisant. Et puis après, ça a été, je l'ai lu à Woodward. C'était très étrange, en fait, hein, ces changements. Je crois que c'était vraiment, c'était une perte, une grande perte par rapport à, au caractère réel de ce qui était dit, ce caractère authentique. Hein. Si le nom est là, on veut que ça soit... connu, on veut que ça soit vendu. Et bon, évidemment, ce qui est vendu varie. Hein. Il y a eu cette question aussi de gorge profonde, par exemple, au moment du Watergate, et des choses dont on a pu prouver, par exemple, que ce n'était pas gorge profonde.
Votre grande passion, Renata Adler, dans le journalisme, et notamment au New Yorker, où vous êtes restée plus de 40 ans, c'est quand même le cinéma. Et d'ailleurs, vous avez publié un livre qui s'appelle A Year in the Dark. Quels sont les cinéastes qui demeurent en lettres incandescentes dans votre mémoire et dont vous revoyez les films ?
Le fait d'être devenue critique de cinéma pour le New York Times s'est fait un peu par accident. J'adore les films, mais comme tout le monde, en fait. Hein. Ma passion n'était pas absolue, voilà, celle de tout le monde. Et finalement, quand j'ai cessé d'être critique, j'ai pratiquement perdu le contact. J'adorais Godard, Truffaut et d'autres personnes depuis. Mais le cinéma n'était pas une passion majeure pour moi. La même, en fait, passion que pour toute personne de ma génération. J'ai d'une certaine manière perdu tout contact avec ce qui se passe dans le cinéma. À l'exception peut-être des documentaires, quelquefois. Le documentaire de Poitras, bien sûr, et puis d'autres encore. Mais je ne suis pas une de ces personnes voilà, qui se souvient de tout à propos de tous les films. Et je dois dire que, en raison de mon travail au New York Times, j'ai rencontré donc... ces hommes merveilleux comme Godard et Truffaut, mais c'était aussi 1968. Et donc, il y avait les manifestations en France et j'allais au festival de Cannes comme correspondante du New York Times. Et évidemment, tout est devenu très politique. Hein. Ça a commencé avec Henri Langlois à la Cinémathèque, hein, qui ne veut peut-être plus comment dire, dire grand-chose aujourd'hui, mais il y avait comment des gens aussi gentils que Truffaut et Godard hein, se retrouvaient tout d'un coup en tête d'un mouvement des étudiants et j'ai eu tellement de chance par rapport à tout ce qui se passait alors autour de moi.
Merci Renata Adler. Dans la postface, vous dites « Je voulais écrire à propos de Hors-bord le genre de livre que j'adore lire. On attend avec impatience les autres livres à être traduits en français. L'un est publié en français, il s'intitule Hors-bord aux éditions de l'Olivier. » Merci à notre traductrice, Pascale Fougère. Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Samuel Bernard et Stéphane Touvenin. Merci à Didier Lagarde et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Bon après-midi.